Radio Grand Ciel pour notre émission mensuelle 10 minutes pour bien manger. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'évolution de notre alimentation dans le temps à travers les siècles. Par le passé, nos ancêtres avaient la hantise permanente de la faim. Ce risque de famine était lié aux mauvaises récoltes, elles-mêmes conséquences de conditions climatiques défavorables. Dans notre pays, les périodes de famine, de disette, ont disparu à la seconde moitié du XIXe siècle, soit à partir des années 1850. Ce n'est pas si loin. Et cela grâce au progrès de l'agriculture et de l'industrie, mais aussi grâce à l'amélioration des moyens de transport, nous allons y revenir. Autrefois, nous consommions uniquement les productions alimentaires locales, que ce soit viande, poisson, légumes ou fruits. L'amélioration considérable des moyens de transport a mis sur nos tables des produits plus variés, jusque aux fruits tropicaux qui font nos délices. Par le passé, fruits et légumes étaient dépendants de la saison. Maintenant, grâce aux moyens de conservation, les saisons sont beaucoup plus étendues. De plus, les transports à très longue distance permettent d'aller chercher dans l'hémisphère sud des produits qui sont à contre-saison dans l'hémisphère nord, par exemple d'avoir du raisin sur nos tables au mois de mai en provenance d'Afrique du Sud, en même temps que notre traditionnel muguet qui, lui, reste bien local. Mais bien sûr, le revers de la médaille est que tout cela a un coût, en particulier celui du transport et de la pollution qu'il génère. Pour augmenter le rendement de nos cultures, nous avons utilisé des engrais ainsi que des produits luttant contre les maladies que pouvaient contacter nos produits agricoles, maraîchers, céréales et puis aussi les fruits. Ces insecticides détruisent les bestioles et autres micro-organismes qui menacent la qualité des récoltes. Mais en contrepartie, un nombre de ces produits se sont révélés toxiques pour notre environnement. Nous le savons, réduisant le nombre d'insectes pollinisateurs, en particulier le nombre d'abeilles. Quant aux lapins, dont nous allons parler maintenant, on connaît leur voracité qui est redoutable pour nos potagers. Nous nous souvenons qu'ils furent décimés par la myxomatose, virus très contagieux, apparu dans les années 1950 en Australie et en Europe. Il provenait d'Amérique du Sud où il était beaucoup moins agressif pour les espèces qui vivaient là-bas. Nous n'avions plus de lapins qui couraient dans les garennes et avons été privés de délicieux pâtés en croûte qui brunissaient dans les fourneaux de nos chaumières. Nous pouvons toujours manger des lapins domestiques, mais ce n'est pas le top lorsqu'ils sont élevés dans leur clapier et leur goût n'est pas comparable à celui du lapin sauvage et du lièvre, qui a été également mise à mal par la myxomatose. Nos paysans pourraient aussi parler des dégâts causés sur nos cultures par les hordes de sangliers. Armés de fusils de chasse, ils organisent alors des battues pour s'opposer à leur prolifération. Nous nous en attristons, mais pas trop, car nous, les citadins, à cette occasion, nous pouvons améliorer notre quotidien avec le menu d'Obélix. Nous poursuivons notre entretien sur l'évolution de notre alimentation à travers les âges. Nous avons vu les progrès réalisés, mais tout n'est pas résolu. En effet, la famine sévit encore dans certains pays, d'autant que les variations climatiques deviennent de plus en plus préoccupantes. On s'interroge aussi sur l'influence d'une population humaine devenue trop nombreuse, mais à ce sujet, les avis sont partagés. À l'été 1972, je me trouvais en Éthiopie avec un petit groupe d'amis. Nous allions rendre visite à Reginald, que nous avions connu à Paris, sur les bancs de la faculté de médecine. Il était chirurgien à l'hôpital du chemin de fer franco-éthiopien, qui est situé à mi-distance entre la capitale Addis Abeba et Djibouti. Dans l'une des régions alors traversées, nous avions constaté une grande famine et les petits endroits où l'on pouvait se restaurer n'avaient plus rien à offrir. Aujourd'hui, à nouveau, en notre année 2022, une grande sécheresse frappe ces pays de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Somalie, Kenya et Soudan du Sud. Cette sécheresse affecte non seulement les récoltes, mais aussi les troupeaux d'animaux, bœufs, moutons, chèvres, etc., qui n'ont plus assez d'eau pour s'abreuver. Parmi les cataclysmes, mentionnant aussi l'un d'eux qui est survenu dans notre région, dans notre département d'Eure-et-Loire, et il a été relaté par Alain Denizet dans sa dernière chronique eurélienne. Alain Denizet, c'est un écrivain que nous connaissons bien. Il s'agissait d'un ouragan apparu le dimanche 13 juillet 1788, soit un an et un jour avant la prise de la Bastille. Un terrible orage s'abattit alors dans notre département. Parti d'Aquitaine, il dévasta jusqu'aux Flandres avant d'aller mourir dans la mer du Nord. Cet ouragan lâcha sa cargaison de grêlons, parfois gros comme des œufs de pigeon, détruisant de nombreuses récoltes, de nombreux édifices et même quelques personnes qui y avaient trouvé refuge. Oui, l'alimentation varie selon les régions du globe. C'est en Amérique du Nord que l'on consomme le plus de produits d'origine animale, qui représentent alors le tiers de la ration calorique globale, avec les steaks géants, etc. Et c'est en Afrique que la proportion de viande, poissons et produits laitiers est la plus faible, soit 3 fois moins qu'en Europe et qu'en Amérique latine. C'est en Afrique que la proportion de céréales et de féculents est la plus importante dans l'alimentation, apportant les 3/4 de l'énergie alimentaire. Il y a une très grande différence entre l'alimentation d'un Esquimau, essentiellement carnée et riche en graisse, et celle d'un Asiatique, qui est surtout à base de riz, et celle d'un Africain, qui consomme principalement du mil et du manioc. Dans la plupart des régions du monde, l'alimentation est encore étroitement dépendante des ressources locales. Ainsi, les habitants des zones côtières consomment beaucoup plus de produits de la mer. et les peuples d'éleveurs vivent principalement du produit de leur élevage. Les fruits et légumes dont ils disposent sont peu variés, car les habitants ont accès seulement à ceux cultivés sur place. Dans notre pays, la France, l'alimentation a beaucoup évolué au fil du temps. L'homme des 20e et 21e siècles ne se nourrit plus comme celui du Moyen Âge, ni même comme celui du 19e siècle. Nous avons vu que les méthodes de production et de conservation s'étaient modifiées. Il en est de même pour les méthodes de transformation des aliments. Nous mangeons de plus en plus de produits industrialisés, pré-cuits, préparés à l'avance. C'est très pratique et les repas sont bien plus vite servis dès que la maman est rentrée à la maison après une journée déjà bien remplie. De plus, ces plats tout prêts d'avance se conservent facilement au réfrigérateur et l'on n'est plus tenu d'aller faire ses courses tous les jours. Mais ces plats sont-ils toujours aussi bons, aussi frais? Certains peuvent être trop salés, d'autres trop sucrés. Et ils nécessitent toute une logistique d'empaquetage et de conditionnement qu'il n'est pas toujours aisé de recycler. Alors, préférons les fruits frais à la compote transformée par l'industrie agroalimentaire. D'autant que plusieurs études épidémiologiques récentes suggèrent un rôle néfaste des aliments ultra transformés pour notre santé. Nous consommons de moins en moins de pain et les citadins encore moins que ceux qui vivent à la campagne. Notre alimentation comporte également moins de pommes de terre, moins de légumes secs type haricots, petits pois, lentilles. Quant à notre consommation de viande, elle a doublé entre les années 1950 et 1980. Certes, nous sommes heureux d'avoir à notre disposition une alimentation de plus en plus variée, mais la sagesse veut que nous privilégions les produits frais, les circuits courts et le moins possible d'additifs dans toute la chaîne de production. En deux mots, il convient de retrouver quelques bonnes coutumes ancestrales qui régalaient nos ancêtres. À cette occasion, on peut redécouvrir d'anciens légumes tels le panais, le cerfeuil tubéreux et le crône. Toutefois, ne nous enfermons pas dans nos productions locales et continuons à échanger raisonnablement nos produits avec ceux d'autres contrées de par le monde. Enfin, rappelons ce que nous dicte notre raison. Dans notre assiette, suffisamment mais pas trop, en évitant de se resservir du même plat, comme disait l'un de nous, ce qui l'avait bien aidé à réduire son surpoids. Mangeons donc moins, mais mangeons mieux. Mangeons moins aussi pour que d'autres puissent manger plus. Et souvenons-nous que toutes les bonnes choses placées sur nos tables sont le témoignage de la sollicitude de notre Père qui est aux cieux.